Benoît Boritz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, Coopérative contre capitalisme, Travailler autrement les coopératives et puis plus récemment, Au-delà de la propriété pour une économie des communs. Et vous serez près de chez nous à Lens ce vendredi 30 septembre à 18h30 au Toit commun pour participer à une discussion intitulée « Les coopératives, quels apports sur le territoire ?» On peut peut-être commencer, Benoît Boritz, par la base. Qu'est-ce qui définit une coopérative? Qu'est-ce qui la différencie d'une entreprise type société commerciale ou encore d'une association?
Je vais d'abord répondre par rapport à une société de capitaux. L'objectif d'une société de capitaux, c'est de permettre à des gens de se réunir, de mettre ensemble leur capital, de façon à le valoriser. Et ils vont le valoriser par des versements de dividendes qui donnent une valeur, je dirais, au capital à tout moment. Et l'objectif est bien entendu de faire plus d'argent avec de l'argent. Ensuite, vous avez, comme dans toute entreprise, ce qu'on appelle un objet social. L'objet social, c'est qu'est-ce que va faire l'entreprise. Donc, on s'est réunis ensemble, on a dit, tiens, on va monter des capitaux pour gagner de l'argent. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tiens, par exemple, le secteur du luxe, c'est quelque chose qui marche bien, qui est rentable. Allez, on va faire du luxe. Et on va dire, l'objet social, c'est de promouvoir des produits de luxe dans un public plus ou moins restreint, etc. etc. Bon. Une coopérative, c'est une société dans laquelle l'objet social prime. C'est-à-dire qu'on se réunit d'abord et avant toute chose pour un objet social. Ça peut être, je veux diffuser de la nourriture biologique. Ça peut être, je veux me lancer dans les énergies renouvelables. Ça peut être, je suis, nous sommes salariés d'une entreprise qui aujourd'hui est disponible à la reprise. Donc, nous créons une coopérative pour construire, pour reprendre cette activité. Et le capital, il est au service de cet objet social. C'est-à-dire que c'est un moyen, ça n'est pas une finalité. On s'est réunis pour l'objet social et le capital, c'est ce qui va permettre de réaliser l'objet social. Et du coup, on a des règles qui sont complètement différentes. On a des règles qui consistent à dire, on va faire une rémunération limitée au capital parce que ça n'est pas l'objectif. Et comme, je dirais, c'est pas très intéressant de souscrire au capital coopératif, on le fait par nécessité. On va délibérer non pas sur la base d'une voix par action, mais une voix par personne, tout simplement, ce qui permet d'introduire la démocratie dans les règles coopératives. Voilà la définition même de la coopérative. Qu'est-ce qui différencie d'une association? Ce qui différencie d'une association, je dirais peu de choses, en fait. Dans une coopérative, on aura toujours des gens qui sont salariés. Dans une association, oui et non. En tout cas, on retrouve dans l'association la même notion de non-lucrativité de l'activité que dans la coopérative. Ce qui différencie essentiellement, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion de capital dans une association. Dans une coopérative, il y a encore une notion de capital, c'est-à-dire j'ai acheté des parts sociales qui me seront remboursées par la coopérative au moment de mon départ. Dans l'association, c'est plutôt des dons qui constituent en quelque sorte le capital. Donc là, vraiment, on a une structure qui n'appartient vraiment à personne. Voilà.
Les coopératives, c'est pas nouveau. Où est-ce que vous situeriez les racines de ce mouvement en France?
Alors, les racines de ce mouvement en France, c'est, j'ai tendance à dire, c'est 1834 et l'association des bijoutiers en doré avec Bûcher. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des artisans qui décident de travailler ensemble et de vendre leur production. Et ça va nous donner ce qu'on appelle les associations ouvrières de production, qui sont les ancêtres de nos SCOP. Donc c'est quelque chose, alors SCOP, Société Coopérative et Participative aujourd'hui, autrefois on appelait ça Société Coopérative Ouvrière de Production. Alors c'est pour moi un petit peu l'origine du mouvement coopératif en France, la plus ancienne, on en trouve dans d'autres pays qui prennent d'autres formes. La particularité de la forme française, c'est qu'il s'agit d'une coopérative dans laquelle ce sont les gens qui travaillent qui sont membres de la coopérative. Et ça peut vous paraître, ça peut vous surprendre éventuellement. Il faut savoir que c'est une exception. C'est-à-dire que dans la majeure partie des coopératives, ce sont les usagers qui sont membres de la coopérative. Donc souvent, je fais dans mes livres cette distinction en parlant de coopératives de travail, dans lesquelles je mets les SCOP françaises, et puis les coopératives d'usagers dans lesquelles ce sont des usagers qui forment la coopérative pour un objet social donné et qui vont salarier des individus qui, eux, vont avoir le même rapport de subordination que dans une société de capitaux ou une association. Voilà. Pour vous situer cette origine, pour voir par exemple d'autres origines intéressantes à voir, c'est le mouvement anglais, le mouvement coopératif anglais, c'est 1843 cette fois-ci, c'est les pionniers équitables de Rochdale. Les pionniers équitables de Rochdale, ce sont là aussi des travailleurs, hein, ce sont des tisserands, mais qui vont créer une autre forme de coopérative dans laquelle on va avoir aussi bien des gens qui y travaillent que des usagers. Et on va s'apercevoir qu'à la fin, ce sont les usagers, parce qu'on a la règle, une personne, une voix, qui vont prendre le dessus. Et ça va nous donner ce qui, aujourd'hui, ça existe toujours, hein, c'est le fameux coopérative groupe anglais, qui regroupe 70 000 salariés et qui regroupe à peu près 1 million de membres usagers, de clients. Voilà. Ça, c'est une autre forme de coopérative. Donc, on voit que c'est coopérative d'usagers. Et puis, une autre forme de coopérative d'usagers va naître en Allemagne dans les années 1950-60, ça va être la coopérative bancaire, avec deux grands noms, Raiffeisen et Schulz-Delitzsch, qui ont deux approches différentes d'ailleurs de la coopérative bancaire, et c'est ce qui va nous donner, je dirais, la coopération bancaire qu'on voit aujourd'hui en France, avec notamment le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Voilà. Donc on voit que le mouvement coopératif, c'est quelque chose qui est extrêmement divers, c'est né dans différents pays, et on voit donc qu'il y a différentes formes de coopération.
Aujourd'hui, ça représente quoi en termes de nombre de salariés peut-être en France? Vous avez une idée?
Oui, en nombre de salariés dans le monde coopératif, en général, c'est 800 000 à peu près, 800 000, 900 000, quelque chose comme ça. Mais il faut comprendre que ce sont des salariés qui se retrouvent aussi bien salariés du Crédit Agricole, du Crédit Mutuel, de caisses coopératives de crédit mutuel, que de salariés qui sont salariés de coopératives agricoles ou des salariés de SCOP. Et dans ces 800-900 000, les salariés de SCOP représentent à peu près 70 000, 75 000 salariés. Voilà. Donc la SCOP, je reprécise, ce sont des coopératives dans lesquelles ce sont les salariés qui sont majoritaires au capital et qui dirigent leur entreprise.
Alors oui, justement, qu'est-ce que ça change? Bon, il y a un droit de regard, il y a une participation démocratique normalement au sein de la coopérative, mais qu'est-ce que ça change d'autre pour le salarié peut-être?
Ça change énormément de choses. Lorsqu'un salarié rentre dans une société, on a dit classique tout à l'heure, j'aime mieux le terme société de capitaux, schématiquement, il va obéir aux ordres d'une direction qui est nommée par les actionnaires, donc qui sont des personnes extérieures à l'entreprise, qui sont mues uniquement pour le rendement de leur capital. C'est là la fonction. Dans une SCOP, c'est assez différent parce que ça reste quand même une société. Donc, on va avoir une élection d'une direction, une assemblée générale. Alors, on va parler de sociétaire en coopérative. On ne parle pas d'actionnaire. On parle de sociétaire, mais c'est quelque part un petit peu la même chose. Une assemblée de sociétaires qui va nommer une direction. Mais la différence, c'est que lorsqu'on est en SCOP, la majeure partie des sociétaires, ce sont des salariés, à 2/3, hein, c'est la règle. Et donc ils ont 2/3 des voix, donc on est sûr d'avoir une direction qui répond. Et donc, on va avoir une direction qui est infiniment plus à l'écoute des salariés, puisque si jamais elle ne l'était pas, les salariés vireraient cette direction. C'est ce qui s'était passé dans la fonderie d'Albi il y a quelques années, où ils avaient une direction qui ne leur convenait absolument pas, et puis ils l'ont remplacée par une nouvelle direction issue de leur propre rang. Donc il y a un élément de démocratie qui est fondamental, qui diffère complètement la SCOP, la coopérative de travail, de la coopérative d'usagers et de la société de capitaux. Dans une coopérative d'usagers, vous l'avez bien compris, ce sont les usagers qui sont au pouvoir et pas ceux qui travaillent, hein, très clairement. Alors, une fois qu'on a posé ça, qui est un petit peu le cadre juridique, qu'est-ce que ça change concrètement de la vie de tous les jours? Je dirais que c'est d'abord un garde-fou. Bon. Et ensuite, à partir de là, on s'aperçoit qu'il y a des dynamiques de démocratie dans les scopes qui se développent, qui sont très variables d'une scope à une autre. J'ai visité énormément de scopes en France. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas une seule qui ressemble à une autre. on en a dans lesquelles, ben, je dirais, presque toutes les décisions sont discutées en assemblée générale, ou lorsqu'il y en a besoin, on fait une assemblée générale informelle, hein, pour discuter de ceci, de cela, l'organisation du travail, etc. Et on en a d'autres, c'est l'autre extrême, où on a une direction qui, ma foi, dirige l'entreprise avec, d'une façon très classique au final, hein, en assignant des tâches aux unes et aux autres. Mais je dirais que c'est quelque chose de consenti quand même, puisque sinon les salariés ont la possibilité de virer cette direction. Donc on voit qu'on a toute une palette, je dirais, de possibilités dans les scopes. Mais il y a un slogan des scopes que j'aimais beaucoup à une époque, qu'ils l'emploient malheureusement moins maintenant. Ils disent « la démocratie nous réussit ». Je trouve ce slogan extraordinaire parce que c'est, je le trouve, extrêmement politique. Elle dit ceci, elle dit « bon, ok, on est des entreprises démocratiques, c'est-à-dire que les travailleuses et travailleurs dirigent l'entreprise d'une façon ou d'une autre à un degré plus ou moins fort, mais en tout cas, ça ne nous empêche pas de croître économiquement et au contraire, c'est un atout. La démocratie nous réussit, j'aime beaucoup ce slogan. »
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule, les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants. Et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vomir des imprimantes. Et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
Alors Benoît Boritz, on l'a dit, vous serez ce vendredi à Lens pour participer à ce débat qui est organisé par le réseau des SCIC du Pas-de-Calais, les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Et le thème du débat, c'est les coopératives, quels apports sur le territoire. Alors, de quoi ça va parler?
Ben, je pense que ça va d'abord parler des sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est de ça dont on va parler. Qu'est-ce que c'est? Alors, on n'en a pas encore parlé entre nous, là. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, ce sont des sociétés qui sont nées en France en 2001-2002. On a eu les premières qui ont été enregistrées à cette date-là et qui progressent énormément actuellement en France. Alors, en général, elles sont hébergées soit par le mouvement des SCOP, soit par le mouvement des CUMA, les coopératives d'utilisation de matériel agricole, pour une très faible part, hein, 10%. 90% sont sous les SCOP. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une coopérative multicollège dans lequel on a toujours la règle une personne, une voix, mais on va la tempérer par une dynamique de collège. En fait, tout à l'heure, vous savez, je vous ai parlé des pionniers équitables de Rochdale. Je pense que pour que les pionniers équitables de Rochdale aient été une forme très originale, il aurait fallu instaurer ces collèges à l'époque. Ils n'existaient pas et du coup, les usagers qui étaient largement plus majoritaires que les travailleurs ont pris le pouvoir dessus. La différence dans une SIC, c'est qu'on va organiser le sociétariat en collège. Donc, je vais adhérer à une SIC, par exemple, en tant que salarié de la SIC. Je vais adhérer à la SIC en tant qu'usager de la SIC. Je vais adhérer peut-être à la SIC en tant que financeur, en tant que collectivité locale. Et une SIC peut organiser autant de collèges qu'il le souhaite avec une règle qui est au minimum 3 collèges, dont 2 obligatoires. L'un qui est celui des usagers, des bénéficiaires, on dit, et l'autre qui est celui des salariés. Et aucun collège ne peut avoir plus de 50% des voix. Alors, qu'est-ce qu'on a avec une SIC? Alors, je dirais ce qui caractérise aussi la SIC, et ça c'est important de le signaler, c'est pas une coopérative commerciale comme une autre qui pourrait vendre, non. C'est ce qu'on appelle l'intérêt collectif. C'est-à-dire que la philosophie même de la SIC, c'est de voir des parties prenantes qui viennent de différents horizons, qui se réunissent pour un objet social et qui donc va passer ensemble un pacte qui consiste à dire, ben voilà, on va répartir le pouvoir de cette façon entre nous. Je dirais que la SIC, à partir de ce moment-là, c'est quand même une entreprise assez différente d'une SCOP. J'ai une tendance à dire c'est quand même une coopérative d'usagers. C'est-à-dire qu'on va, on se réunit pour avoir une activité économique qui correspond à un intérêt collectif, à un objet social. Mais à la différence de la SCOP, forcément les salariés vont être minoritaires au capital. Donc ils vont se retrouver en dessous de 50%, il faut le savoir. Ils peuvent avoir 40%, ils peuvent avoir moins. On a des SIC avec des collèges de salariés de 10%. Mais ce qui est intéressant, c'est que les salariés sont pas, ils ont une garantie de pourcentage de voix, comme d'ailleurs toutes les autres parties prenantes. mais c'est quand même la gestion d'une coopérative d'usagers, c'est-à-dire qu'on va chercher non pas à maximiser la valeur ajoutée pour maximiser les rémunérations, comme on pourrait le faire en scope, mais on va chercher, je dirais, à atteindre un budget, en quelque sorte, les objectifs économiques qu'on s'est fixés. C'est dans ce cadre, je dirais, que ça va se dérouler, et c'est la raison pour laquelle, je dirais, les salariés n'ont pas forcément la majorité là-dedans. Et on cherche à avoir une espèce de rencontre de parties prenantes autour de cet objectif. Alors, vous m'avez parlé de territoire, et là, pour moi, c'est un petit peu là la question qui est posée, et ça va être le cœur de ce débat très probablement. J'introduirai bien entendu ce débat d'une façon relativement classique sur qu'est-ce que sont les coopératives, qu'est-ce que sont les SIC, qu'est-ce que sont ça. Mais la SIC, d'une façon générale, pas tout à fait exact, mais la SIC peut avoir un impact extrêmement fort sur les territoires. Tout simplement parce que, alors, on a des SIC qui ont des enjeux nationaux. Je prends l'exemple de la coopérative Enercoop qui est fournisseur d'électricité renouvelable. C'est une coopérative nationale qui collabore avec des coopératives locales. Mais très souvent, les SIC ont une dynamique territoriale très forte parce qu'on retrouve, je dirais, des individus, des groupes, des collectivités locales qui se réunissent autour d'un objectif économique qu'on se fixe, un objectif, quand je dis économique, je le dis dans le sens, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire pas simplement financier, mais dans le sens, je dirais, à la fois écologique et social. C'est bien transformer le territoire, c'est bien transformer la vie des individus sur un territoire, apporter du bien, apporter du mieux. Voilà, je dirais, comment une SIC peut s'insérer et peut avoir surtout un rôle stratégique très très important dans le développement des territoires.
Benoît Boritz, vous nous brossez un portrait très, très positif, hein, on le comprend, des coopératives, mais dans notre région, on a quand même de sérieux contre-exemples. Hein. Bon, on peut parler de coopératives agricoles, hein, en tout cas certaines d'entre elles, sans citer de nom, là, ça n'a plus rien à voir avec l'économie sociale et solidaire.
Alors, oui et non. que c'est quelque chose à voir avec l'économie sociale, c'est indiscutable. C'est pas forcément solidaire. Mais tout simplement à cause des règles. Point barre, c'est tout. Moi, dans ce que je vous ai brossé comme tableau, je vous ai surtout parlé des scopes, vous avez remarqué, et puis là, récemment, des SIC. Je ne vous ai pas parlé des autres coopératives, je ne vous ai pas parlé de la coopération agricole, je ne vous ai pas parlé de la coopération bancaire. Dans le cadre de la coopération agricole, qu'est-ce que c'est? Ben, comme je vous l'ai dit, je la classe. Alors, historiquement, la coopération agricole, on pourrait la classer comme coopérative de producteurs, puisque ce sont des paysans qui, au départ, se regroupent pour faire un produit ensemble. Et le meilleur exemple, ce sont bien sûr les fruitières du Jura. Mais très, très vite, ces coopératives vont commencer à salarier des individus pour transformer leurs produits et donc pour obtenir un débouché à leurs produits. Donc, en fait, on va avoir une coopérative d'usagers. De plus en plus, la coopération agricole est une coopérative d'usagers. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des usagers qui sont réunis, ce sont en l'occurrence des agriculteurs, très souvent qui n'ont pas tellement le choix que de se mettre dans cette coopérative. Donc, on a une vie démocratique qui est souvent assez pauvre dans ces coopératives, il faut le reconnaître, avec une technocratie qui existe et qui se débat dans un environnement de marché, ne l'oublions pas, qui ont une vision qui n'est peut-être pas forcément celle des sociétaires, pas forcément celle des agriculteurs, qui rend quand même service aux agriculteurs. Et c'est vrai que, bon, on peut se dire c'est très, très éloigné du mode coopératif. Oui, effectivement, c'est pour ça que je vous disais, oui, ça fait indiscutablement partie de l'économie sociale, c'est-à-dire que on reste dans un cadre coopératif, quoi qu'il en soit. L'objectif n'est pas de vendre la coopérative, l'objectif n'est pas de valoriser le capital de la coopérative. L'objectif de ces coopératives, c'est quand même de maximiser le revenu des agriculteurs, même si parfois ça se fait pas toujours d'une façon souhaitée. Donc voilà pourquoi je mets ce bémol, et je n'ai pas du tout évidemment le même enthousiasme pour la coopération agricole au sens général, à l'exception peut-être des CUMA que des SCOP et puis des SIC.
Benoît Boritz, auteur notamment du livre « Coopérative contre capitalisme », il était au micro de Radio PFM, une interview réalisée par téléphone mardi dernier. Il sera présent ce vendredi 30 septembre à 18h30 au Toit commun, rue de Lannoy à Lens, pour participer à cet échange autour du thème « Les coopératives, quels apports sur le territoire ?» C'est organisé par le réseau des SCIC du Pas-de-Calais. Je vous signale aussi son site internet très documenté, benoitboritz.fr, Boritz avec deux R.
Pour toi, j'aime me lever, j'aime me laver, j'aime me coiffer. Pour toi, je mets le costume, puis je me parfume, la cravate au cou. Pour toi, je veux la belle allure et la bonne figure, le sourire en joue. Pour toi, j'offrirai ma vie, j'aurai du crédit, j'écouterai le roi. Pour toi, je ferai tout. Pour toi, je suis disponible, même si c'est pénible, je ferai tout. Pour toi, je suis disposé, même si c'est osé, je ferai tout. Pour toi, je peux me lâcher ou bien m'attacher, mais ne me quitte pas. Pour toi, je ferai tout. Travaille, je t'aime. Travaille, je ne veux pas te perdre. Je donnerai le pire et le meilleur de moi. Pour toi, j'envahirai le monde, j'imposerai la ronde de ton octroi. Pour toi, je ferai un domaine, tu auras les rênes de mon revenu à ton cou. Je serai pendu. Travaille, je ne veux pas te perdre. Non, non, non. Travaille, je t'aime.